enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va dans Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7, verset 2. On ira à partir du verset 2, pour qu'il n'y ait plus de suspense. Josué, chapitre 7, verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Et ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. C'est moi que je vous sens que Jéricho, hein? Un peuple consterné qui perd courage. Pourtant, ça se passe dans la même manière que Jéricho. Souvenez-vous, pour Jéricho, on commence par envoyer des espions. Et on dit aux espions, allez explorer le pays et venez nous faire un rapport. Là, Josué, même principe, même méthode, envoie des espions explorer le pays et venir faire un rapport. Ces hommes viennent faire un rapport en disant, oh, Haï, c'est tout petit, hein. Jéricho, oui, ça c'était gros, ça, Jéricho, c'était une grosse affaire. Mais Haï, facile. C'est pas la peine de te fatiguer, c'est pas la peine de fatiguer le peuple en envoyant du monde. C'est une victoire assurée d'avance, une victoire facile, Josué. On voit juste 2 ou 3 000 hommes, et ils en envoient 3 000 quand même. Ils ont dit 2 ou 3 000, mais ils ont choisi le gros chiffre. Ils envoient 3 000 hommes pour aller attaquer cette petite ville d'Haï. Certains diraient plutôt Haï. Aïe, aïe, aïe. On envoie une petite poignée, enfin 3 000 hommes, ils vont attaquer cette ville, et voilà qu'ils sont dans la défaite, ils rentrent, et puis on dit, bon, bah, c'est une grande défaite. Enfin, une grande défaite, 36 morts pour 3 000, un peu plus d'1%. C'est une grande défaite, ça? C'est une petite affaire. Ah oui, les 36 morts, c'est beaucoup quand même, d'accord, mais hey, ils étaient 3 000. Je ne sais pas, hein, en Irak, ils sont à plus de 36 morts. Et voilà pourtant que le peuple va être dans l'abattement, le découragement. Tout ça parce qu'ils avaient trop confiance en eux. Ils se sont dit, mais on peut y aller, il n'y a pas de problème, on va réussir, on peut y arriver. C'est une petite... Un petit combat, c'est une petite ville. Il n'y a pas besoin de mettre tous nos efforts, il n'y a pas besoin de mettre toute notre énergie, il n'y a pas besoin d'y mettre grand-chose. Tu vas voir Josué, ça va être facile. Ils sous-estiment la force de leur ennemi. Jésus déjà pouvait dire à Simon, Pierre, arrêtez de dormir, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous met en garde de ne pas nous relâcher, mais de veiller, de prier. De ne pas nous dire, mais hey, après la victoire qu'on a eue, ça c'était extraordinaire quand même, ce Jéricho, après cette victoire, après ce triomphe, plus rien ne pourra nous arrêter. Parce que des murailles comme Jéricho, on n'en trouvera plus, c'est vrai. Plus rien ne peut nous arrêter. Regardez, Haï, c'est tellement petit. Et pourtant, ils vont voir une défaite dans cette ville-là. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10-12. Que celui qui croit être debout, que celui qui se pense être fort ce matin, que celui qui se dise, moi, avec toutes les victoires que j'ai eues dans ma vie, avec tous les Jéricho, avec tous les triomphes, avec toutes les gloires, avec toute la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie, là, cette petite affaire du gâteau. Le doigt dans le nez. On dit ça au Québec? C'est rien, vous allez voir, ça va passer tout seul.
Eh oui.
Et pourtant, le résultat, c'est le découragement. Le peuple fut consterné et perdit courage. La Bible en français courant a traduit « Le peuple perdit tout courage et le cœur lui manqua ». Dans la version Sommer, « Le peuple atterré perdit tous ses moyens ». Et la version Darby, qui correspond davantage au texte en hébreu, « Le cœur du peuple se fondit et il devint comme de l'eau ». Suite à cette défaite, le cœur fond, ils perdent courage, ils perdent tous leurs moyens. Ils veulent plus avancer, ils sont découragés. Et même ils vont jusqu'à dire, on était mieux dans le désert. Regardez, verset 6, on va le lire. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire périr ? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je ? Après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? » Et voilà que Josué lui-même va dire, « Mais Seigneur, on aurait mieux fait de rester de l'autre côté du Jourdain. » C'était le désert. « On aurait mieux fait de rester à tourner en rond dans le désert. Voilà maintenant que là, on a essuyé une défaite. Les ennemis vont apprendre qu'on a eu une défaite. Et ils vont dire, ben, s'ils ont eu une défaite, ils peuvent en avoir une deuxième. Ils peuvent en avoir une troisième. Et ils vont donc nous envelopper, ils vont nous renvoyer d'où on vient. On va périr. On était mieux si nous avions su rester de l'autre côté. » Josué dit à Dieu, « Seigneur, si seulement on avait su rester. » Parce que c'est pas Dieu qui les a envoyés là quand même. Parce que c'est pas Dieu qui a envoyé là Josué de l'autre côté du Jourdain. Et voilà que Josué, quelque part, regrette. Et comme s'il voulait retourner en arrière. C'est exactement la même chose qui s'est produite avec le peuple d'Israël et Moïse. Souvenez-vous, ils ont traversé la mer Rouge. Là, ils ont traversé le Jourdain. Moïse a traversé la mer Rouge avec tout le peuple. C'était une victoire, c'était un triomphe. L'armée de Pharaon engloutie dans la mer Rouge à Jéricho, c'est un triomphe, c'est la gloire de Dieu. Et voilà qu'après Moïse, ben, ils sont dans le désert, ils ont soif, il n'y a plus d'eau, ils sont à Mara, l'eau est amère. Et voilà que le peuple commence à murmurer et dire, on était mieux en Égypte. On était tellement bien quand on était esclave. On parlait coup de fouet. On était tellement bien quand on était esclave, au moins on avait à manger, au moins on avait à boire. Est-ce qu'il y en a qui seraient tentés de penser comme ça? Non? Vous n'osez pas répondre? En disant, quand je suis rentré dans la vie chrétienne, quand je suis rentré avec Dieu, quand j'ai franchi le Jourdain, typologiquement parlant, on pourrait dire quand je me suis engagé dans les eaux du baptême, pourquoi pas, et dire voilà, maintenant que je me suis engagé dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Dieu, oui, il y a eu des victoires, oui, il y a eu des Jéricho, oui, j'ai vu de grandes choses dans ma vie, j'ai guéri, j'ai toutes sortes d'affaires, j'ai vu vraiment Dieu triompher de mes ennemis. Et voilà que maintenant, il y a comme une défaite, qui est pourtant une petite affaire, une petite ville, et cette défaite amène du découragement. Et en tout cas, le peuple d'Israël et Josué pouvaient se décourager au point de dire « T'es mieux avant ». Est-ce qu'il y en a ce matin qui pourraient être découragés au point de dire « C'était mieux avant ?» Avant, quand j'étais loin de Dieu, avant, quand j'étais pas dans l'Église, avant, quand je marchais pas avec Dieu, est-ce qu'on est capable de dire ça ce matin ? Josué, lui, l'a été. Est-ce qu'on est meilleur que Josué ? Mais en tout cas, Dieu parle à Josué. Il va lui dire, arrête Josué, arrête d'être dans cet état, ouvre les yeux, réfléchis, comprends pourquoi il y a eu cette défaite. Parce que s'il y a eu cette défaite, il y a une raison. Josué, lui, pour lui, c'était clair, c'est Dieu qui les a livrés entre les mains des ennemis. Et il va jusqu'à dire, Seigneur, ben, que feras-tu pour la gloire de ton nom? En disant, c'est pas notre affaire, mais c'est ton nom, c'est ta gloire, nous sommes ton peuple, c'est toi qui nous as envoyés. Que vont penser les autres de voir ton peuple dans la défaite, de voir ton peuple là, dans cette défaite? Et Dieu va lui dire, Josué, s'il y a une défaite, c'est parce qu'il y a une raison. Mais ne perds pas courage et examine cette raison. Cette raison, c'est parce qu'il y a là un péché, c'est parce qu'il y a là une abomination, c'est parce qu'il y a là un mensonge à l'intérieur du camp d'Israël. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a un homme qui s'appelle Achan, qui lui a désobéi à ce que Dieu avait dit. Quand ils sont rentrés dans Jéricho, Dieu avait dit, attention là, vous êtes dans Jéricho, c'est pas pour faire fortune. C'est pas pour vous emparer de ces trésors. C'est pas pour récupérer toutes ces affaires-là, non. Vous êtes là pour gagner du terrain. Vous êtes là pour prendre le pays promis. Mais tout ce qui est dans cette ville, vous ne le prendrez pas pour vous. Et puissiez faire confiance à Dieu. Ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans le désert et Dieu leur donnait à manger tous les jours avec de la manne. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Les vêtements ne s'usaient pas, les chaussures ne s'usaient pas. Quand il n'y avait pas d'eau, Dieu fendait le rocher. Il y avait la gloire de Dieu qui était manifestée. Et Dieu est en train de leur dire, là, quand vous entrez dans Jéricho, ne comptez pas sur les trésors et les richesses de Jéricho, comptez sur moi, que je sois toujours le premier dans votre vie. Mais Achan s'est laissé tenter par un manteau de Shinéar, s'est laissé tenter par une belle toile, un beau manteau, et puis quelques pièces d'or. Et encore, quand on y réfléchit, c'était pas grand-chose. Mais à cause de ça, Dieu était plus avec eux. Et ils ont perdu quelque part la puissance, la force, l'autorité. Parce qu'il a menti, il a amené une perte de puissance, pas comment, si on peut dire ça comme ça, sur le peuple d'Israël. Josué est découragé. Mais est-ce que Dieu n'avait pas dit au chapitre 1, à 4 reprises à Josué, « Fortifie-toi, prends courage !» Vous vous souvenez de ça? Dieu l'a dit à Josué. Ah, puis là, quand on lit le chapitre 1, « Fortifie-toi, Josué, prends courage, je suis avec toi !» On dit, mais c'est formidable, là. Avec ce chapitre 1, les batteries sont remontées au maximum. Josué, là, est prêt à dévorer la terre. Il est fort en Dieu. Il a du courage parce que Dieu est avec lui. Eh bien, écoutez, au deuxième combat, il n'y a déjà plus rien. Il est découragé. Ah oui, quand tout va bien, quand la gloire de Dieu se manifeste, c'est facile d'avoir du courage. Quand on voit les murailles de Jéricho s'effondrer, c'est facile d'avoir du courage. Mais voilà que, quand à Haï, c'est cette défaite, le courage n'est plus là. J'aimerais en parallèle aller maintenant sur l'histoire de Daniel chapitre 5. Vous connaissez Daniel? Daniel, un homme de Dieu, mais qui est là en déportation, qui a été déporté par Nebuchadnezzar. Et voilà que Daniel, là, a vécu toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'affaires. Et quelques années plus tard, c'est plus Nebuchadnezzar qui est le roi, mais c'est son fils Belshazzar. Et Belshazzar fait un festin dans Daniel chapitre 5. Belshazzar fait un festin, il y a du vin, et c'est la fête, il y a des danses, ils mangent, ils boivent. Et voilà que Belshazzar a une drôle d'idée, il dit, on va faire venir les vases d'or et les vases d'argent que son père Nebuchadnezzar avait volé dans le temple de Dieu à Jérusalem. Quand Nebuchadnezzar était venu pour détruire la ville de Jérusalem et brûler son temple, il avait pillé les trésors du temple et avait donc pris des vases d'or et d'argent. Mais qu'est-ce que ça fait des vases d'or et d'argent dans le temple de Jérusalem? Ben, c'était des vases qui étaient là pour les services, les holocaustes qui servaient pour Dieu, qui étaient là donc pour le service de Dieu dans le temple. Mais voilà que Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, eh bien dit, on va aller chercher ces vases d'or et d'argent que mon père a récupérés à Jérusalem, et nous, on va s'en servir pour autre chose. On va mettre du vin dedans. Et il va chercher ces vases, et ils mettent du vin dedans. Et
ils mettent ça pour la fête, pour le roi, les grands, ses femmes, ses concubines, qui se servent en fait de ces vases pour boire. Et ça veut dire quoi pour nous? Parce que c'est à cause de ça que Dieu va parler à Belshazzar. Parce qu'il y avait des objets qui étaient sacrés, il y avait des choses saintes, des choses sacrées, dédiées à Dieu, ces vases d'or et ces vases d'argent qui étaient dans le temple, et lui va les mépriser, il va pas considérer ces choses-là, et il va au contraire les amener pour sa fête, pour l'ivrognerie, pour le vin et pour son festin. Et Dieu va parler à Belshazzar, et il va y avoir, vous connaissez peut-être cette image, il va y avoir une main qui va devenir visible, une grande main qui va écrire avec l'extrémité d'un doigt sur le mur du palais. Et Belshazzar voit ça, et même là, le livre de Daniel nous présente un Belshazzar qui change de couleur, qui a les genoux qui s'entrechoquent. Vraiment, il est terrorifié, il est terrorisé, pardon. Il est là, en train de voir ces choses, mais que se passe-t-il? Et cette main écrit sur le mur. Il fait venir tous ces devins, ces astrologues, tous ces sages, tous ceux qui savent lire, et personne est capable de comprendre, d'analyser et de dire au roi ce qui est en train de se passer. Alors on fait venir Daniel, on dit, mais il y a Daniel qui déjà au temps de ton père, Daniel a la sagesse de Dieu. Et alors on fait venir Daniel, et Daniel dit à Belshazzar, tu connais, tu savais qui est Dieu. Parce que déjà au temps de Nebuchadnezzar, Daniel avait interprété un rêve, ce songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu sur une grande statue. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la conclusion avait été, le roi Nebuchadnezzar s'est prosterné sur sa face, prosterné devant Daniel, et il a ordonné qu'on offre des sacrifices, des parfums, puis le roi va dire à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et puis, plus tard, quand il y a eu Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise, et que le roi Nebuchadnezzar, donc le père de Belshazzar, a vu dans la fournaise ardente, eh bien, un quatrième personnage, à la fin, il va lui aussi reconnaître, et il va dire, voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à tout peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces, sa maison sera détruite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le père de Belshazzar, Nebuchadnezzar, avait reconnu à plusieurs reprises, au travers de Daniel, au travers de Shadrach, Meshach, Abednego, que le Dieu que servait Daniel, que servaient ses amis, c'est le vrai Dieu, celui qu'il faut honorer, celui qu'il faut respecter, celui qu'il faut craindre. Mais voilà que son fils, lui, a oublié ces choses. Et Daniel va lui dire au chapitre 5, verset 22, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches ces choses. » Daniel fait le reproche à Belshazzar en disant, « Tu savais, tu sais ces choses. » Tu savais qui était Dieu, tu sais qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est digne de respect, et là tu le méprises en allant chercher ces vases, en allant chercher ces vases d'or et d'argent qui étaient dans le temple de Jérusalem, et tu fais la fête avec. Et Daniel dit à Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique que tu saches ces choses. Et voilà l'écriture que le doigt avait mis sur le mur, compter, peser et diviser. Mene, tekel ou farsin. Compter, peser et diviser. Compter. Deux fois. Compter. Quand Dieu compte, il n'a pas besoin de compter une deuxième fois. Nous, ça nous arrive souvent. Hein. Quand on compte, il faut qu'on compte une deuxième fois pour être sûr de ne pas nous être trompés. Mais si là, il y a marqué compter deux fois, c'est pour que nous, on puisse vérifier quelque part, pour dire que vraiment, ça a été compté justement. Compté. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Voilà la parole que Daniel va dire à Belshazzar. Dieu a compté et il y a mis fin. Le psaume 90, 12 fait cette prière enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter. Est-ce que nous sommes de ceux qui comptions bien? L'apôtre Paul dit, rachetez le temps, ne perdez pas de temps, faites bien vos comptes et comptez correctement. Apprenons à bien compter nos jours, parce qu'il arrivera un temps où ce sera fini, un temps où ce sera trop tard. Et on comprend pourquoi Jésus dit, pendant qu'il fait jour encore, eh bien travaillons, parce que la nuit vient où il sera trop tard. Mais si on ne compte pas, si on ne sait pas compter, eh bien quand le trop tard arrive, on est pris au dépourvu. La cigale fut prise au dépourvu lorsque la bise fut venue, parce qu'elle n'a pas su compter. Si on prend l'avion, imaginez, vous êtes pilote d'avion là, mais vous ne savez pas compter combien votre avion consomme d'essence. Là, il arrive un moment, il faut faire attention, parce que si vous n'avez plus assez d'essence pour revenir à votre point de départ, pour revenir à l'aéroport, on fait quoi après quand il n'y a plus d'essence dans un avion? Il faut apprendre à compter. Bon, quand on est en voiture, ce n'est pas si pire, mais en avion, le pilote dit « panne d'essence ». Enfin, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je me souviens quand j'étais petit au Sénégal, il y a un avion qui décolle, puis quelques kilomètres plus loin atterrit en catastrophe sur la plage parce qu'ils avaient oublié de faire le plein d'essence. Mais nous, dans notre vie, est-ce qu'on est capable de réagir comme ça et de ne pas compter, de ne pas être sage, de ne pas être prudent, qu'on puisse apprendre à compter? Compter, peser et diviser. Et là, c'est peut-être sur ce deuxième mot, peser, que je vais insister ce matin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et moi, ça me fait réfléchir quand je lis ce genre de paroles. Parce que je dis, oui, Belshazzar, c'est vrai. Ben oui, lui, il a été pesé, il a été trouvé léger. Bon, puis la question, évidemment, qu'on va se poser, c'est, et moi? Si je dois être pesé dans la balance de Dieu, je pèse combien? Dans le monde de la finance, on dit, lui, il pèse 3 milliards, lui, il pèse 1 milliard, lui, il pèse 20 millions. Et nous, on pèse combien? Vis-à-vis de Dieu. Quel poids on a devant Dieu. Tu as été trouvé léger. Comprends ce que ça veut dire, être léger. Quelqu'un de léger, c'est quelqu'un qui manque de respect. C'est quelqu'un qui n'est pas là en profondeur. C'est quelqu'un qui n'a pas cette consécration que Dieu attend. Tu as été trouvé léger. Que Dieu ne nous trouve pas léger ce matin. Et qu'au contraire, nous soyons là en lui, en profondeur. Divisé, ton royaume sera divisé. Je reviens à Josué. Pourquoi la bataille à Haï a été une défaite? Parce qu'ils ont été légers. Parce que tu as été trouvé léger. Parce que Achan, oui, c'est vrai, a menti. Parce qu'il n'a pas craint Dieu, parce qu'il n'a pas respecté. Parce qu'il a fait ses affaires en disant, mais c'est pas grave, Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu est en train de reprendre son peuple et dire, attention, ce que vous faites, c'est grave. Et regardez la conséquence. C'est que même dans ce qui était tellement petit, tu n'as même pas la victoire là-dessus. Tu as eu la victoire sur Jéricho, tu as eu la victoire sur de grandes choses, mais sans sur des petites bricoles, même là-dessus, tu n'as pas la victoire. Parce que dans ta vie, il y a certaines choses que tu prends à la légère. Et en ce qui nous concerne, que nous soyons là respectueux des choses de Dieu. Pas comme Belshazzar qui va mépriser les affaires saintes, les affaires de Dieu, mais que nous soyons là avec du respect et que nous ne soyons pas trouvés légers. Hier, il y avait les obsèques de la maman de Roger Côté. J'étais à la messe. Ça faisait longtemps que je n'étais pas à la messe. J'ai jamais été catholique, moi. Mais quelque part, je repensais à cette prédication en disant, quel poids ça a, tout ça. Est-ce que c'est pas léger? Tu as été trouvé léger. Ah, on peut avoir une belle apparence. On peut parler de Dieu, on peut chanter des cantiques, parce que j'étais surpris de voir qu'à la messe, les choses évoluaient, du moins là-bas, hein, dans ce petit village, à Saint-Zéphirin. On chante Amazing Grace. Le prêtre dit, saluez votre voisin, dites-lui que la paix soit avec toi. Il dit, bon, ben, les choses évoluent, mais c'est léger quand même, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Et en ce qui nous concerne, nous aussi, nous pouvons avoir une apparence. Première chose que Jésus reproche aux pharisiens de son époque, c'est leur légèreté, c'est leur hypocrisie. Vous soignez la face, vous soignez l'apparence. En apparence, tout est beau, mais c'est une image. Comme sur une feuille de papier, il y a une belle image. Mais c'est léger, c'est un trompe-l'œil. Vous savez, des fois, il y a des dessins qu'on fait sur un mur, on a l'impression qu'il y a une colonne, puis en fait, quand on s'approche du mur, on voit que c'est juste un dessin. Vous avez déjà vu ce genre de trompe-l'œil en décoration? Il y a des fois, on voit une jolie fontaine, on dit « Ah, quelle belle fontaine !» Puis on s'approche du mur, en fait le mur est bien plat, et c'est juste un dessin. Et dans les choses de Dieu, on peut tromper, on peut être léger, mais Dieu attend de nous qu'il y ait de la profondeur, qu'on ne soit pas là d'une manière superficielle, mais qu'au contraire, on est là de la profondeur. Belshazzar, tu as été trouvé léger. Dieu t'a pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Et voilà que le peuple d'Israël perd une victoire, perd une ville, enfin, est dans la défaite parce que dans leur cœur, il y a eu de la légèreté. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Seigneur, apprends-nous à ne pas manquer de respect et à réaliser que tu es grand, que tu es fort, que tu es puissant et qu'on ne peut pas venir devant toi avec légèreté, qu'on ne peut pas venir dans ta présence avec légèreté. Je reviens maintenant à Jéricho, chapitre 6. J'avais dit que j'y reviendrais. Je reviens à Jéricho, chapitre 6. Juste avant Jéricho, à la fin du chapitre 5, Josué rencontre le chef de l'armée de Dieu. Et voilà que Josué a cette manifestation. Devant lui, il y a le chef de l'armée de Dieu, le général en chef de toute l'armée, de la puissance de Dieu. Josué déjà dit, mais qui es-tu? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es pour nous? Et il se présente, il dit « Je suis le chef de l'armée de Dieu ». Et voilà qu'on est au chapitre 5, versets 13, 14 et 15. Et voilà que Josué va se prosterner contre terre et va dire « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Voilà que le chef de l'armée de Dieu est là, devant Josué. Josué, c'est lui qui dirige le peuple d'Israël. Il y a le chef de l'armée céleste et le chef de l'armée sur la terre. Et les deux sont ensemble là pour faire un plan de bataille, un plan de guerre. Et voilà que Josué donc pose tout naturellement cette question. Qu'est-ce que tu dis à mon Seigneur? Mon Seigneur, qu'est-ce que tu dis à ton serviteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Si tu viens me voir, c'est que tu as quelque chose à me dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et voilà ce qu'il répond. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Est-ce que c'est la réponse que Josué attendait? Tu es venu, tu as quelque chose à me dire? Oui, ôte tes souliers. C'est pour ça que tu es venu me voir. Ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et là, le chef de l'armée de l'Éternel est en train de dire à Josué, tu es et saint. Enlève tes chaussures, enlève tes souliers en signe de respect, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. De la même manière, bien souvent, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous venons avec nos questions, avec nos prières et nos requêtes, et nous allons droit au but, en disant « Seigneur, voilà mon problème, il y a une muraille devant moi. Seigneur, voilà mon problème, il y a une muraille, Jéricho. » Et laissez-moi vous dire que les murailles du château Frontenac, ça vaut rien à côté de Jéricho. Jéricho, c'était une autre affaire. De hautes murailles, des murailles doubles. Il y avait une muraille, un vide, Un vide dans lequel, nous dit-on, pouvait passer tout un char avec des chevaux, et ensuite une autre muraille, en double. Comme ça, s'ils arrivent à passer la première, il y aura une deuxième. Mais la deuxième, on la voit pas, parce que la première la cache. Imaginez la surprise, là, vous arrivez à casser la première muraille, ah, il y en a une autre. Muraille de Jéricho, c'était toute une affaire. Il y avait de quoi décourager tout un peuple. Et voilà que quand Josué est en train de dire « Hey, Jéricho, c'est une grosse affaire, c'est pas une petite affaire, et on a besoin de Dieu, on a besoin de toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parle-nous, quel est le plan d'attaque, quel est le plan d'action? Comment est-ce qu'on va réussir à rentrer dans Jéricho ?» Et la réponse c'est « Ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu sous lequel tu te tiens est saint. » Quelque part, l'ange de l'Éternel est en train de redire à Josué « Attention Josué, n'oublie pas à qui tu parles. N'oublie pas le moment que tu es en train de vivre. N'oublie pas que Dieu est grand, que Dieu est saint, digne de louange, de respect, d'adoration. Arrête de regarder à toi, considère aussi. » Et quand on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas comme un syndicaliste qui vient réclamer quelque chose, en disant « Quand même, Seigneur, t'exagères, hein, je t'ai demandé, j'ai toujours rien su. » Est-ce que c'est comme ça que vous venez dans la présence de Dieu? En disant « Quand même, Seigneur, il y a un problème là, tu m'as pas entendu ? Je t'ai demandé telle affaire et il n'y a toujours rien. » Non. Quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on vienne avec respect, qu'on vienne avec déférence, qu'on vienne là vraiment disant « Seigneur, tu es grand, tu es saint, tu es digne de louange. » Qu'on ne soit pas trouvé léger dans sa présence, mais qu'on soit là vraiment avec respect. Qu'on ne traite pas Dieu à la légère. Qu'on ne traite pas Dieu à la légère, mais qu'on réalise, qu'on se souvienne de qui il est. L'apôtre Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Certains vont dire, Jésus c'est mon ami, c'est vrai. Thomas pouvait dire, mon Seigneur et mon Dieu. Bien plus qu'un ami. Il est celui que nous vénérons. Il est celui que nous adorons. Il est celui devant lequel nous nous prosternons. Il est celui que nous respectons. Il est celui qui est notre maître, qui nous enseigne. Et nous voulons nous laisser enseigner par lui. Alors, ensuite, le texte ne dit pas ce que l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel, va dire à Josué, mais on voit dans le déroulement que Josué a reçu des consignes. Il dit, voilà, il faut 7 trompettes, 7 sacrificateurs, on va faire le tour de la muraille une fois, ensuite le lendemain, on fera le tour une deuxième fois, et ainsi de suite. Et donc, ils font le tour de la muraille avec des trompettes. C'est une nouvelle méthode de guerre. Mais ça marche. Et Dieu, en ce qui nous concerne, veut nous amener dans des victoires. Des victoires qui sont incroyables pour les hommes. Des victoires qui ne sont pas possibles. Humainement, ce n'est pas possible de remporter de faire écrouler une muraille avec des trompettes. Non ? Même si les trompettes jouent fort, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce n'est pas les trompettes, d'ailleurs, c'est les cris de louanges et les cris de victoire que le peuple va faire monter, qui va faire écrouler ses murailles. Mais Dieu le fait. Et peut-être que certains se disent, mais moi j'ai des murailles dans ma vie, il y a des murailles que je ne suis pas capable de franchir. Peut-être que d'autres vont dire, moi il y avait des murailles, c'est vrai, et je les ai franchies. Et puis je me suis retrouvé devant une petite affaire comme la ville d'Haï, et je me suis essuyé une défaite parce que j'ai cru que c'était facile. Et j'ai été découragé. Regardez le prophète Élie. Il remporte une grande victoire sous le mont Carmel. Là, il y a les prophètes des Baal, des Astarté qui sont là. Et puis Élie, le feu du ciel descend. Quelle victoire, quelle gloire pour Dieu. Quel triomphe, tout seul, contre 850 faux prophètes. Et voilà que Dieu là manifeste sa gloire. Bien. Et quelques heures plus tard, il fuit devant Jézabel. Et il est découragé. La vie chrétienne, des fois, ça ressemble à ça. Mais Dieu ne veut pas que nous ressemblions à ça. Il veut que nous allions de progrès en progrès, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais pourquoi alors Haï, ça n'a pas fonctionné? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Haï, il y avait un problème. Mais est-ce qu'ils auraient pu éviter le problème? Ben oui. Nulle part on voit l'ange de l'Éternel donner le plan d'attaque pour la ville d'Aï. Nulle part on voit Josué dire « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire pour cette ville ? Quel est ton plan ? Quelle est ton idée ?» Non, ils foncent. Ils disent quand même « Hey, avec tout ce qu'on a fait maintenant, on fonce !» Est-ce que ça ne nous ressemble pas, ça ? Alors, quand on est devant une muraille, oui, on n'a pas d'autre choix que de crier à Dieu. Quand on est devant la muraille de Jéricho, on n'a pas d'autre choix que de dire « Seigneur, j'y arriverai pas, c'est trop grand !» Mais plus tard, on dit « Ah, ça, je suis capable !» Et Dieu dit « Arrête de dire que je suis capable !» Même dans ces petites affaires-là, demande-moi avant, ça vaut mieux. Et si Josué avait demandé avant, ça se serait mieux passé pour eux, parce que Dieu aurait dit « Attends avant d'y aller, il y a un problème à régler. Attends avant d'attaquer Haï, il y a quelque chose à régler dans le camp. Il y a quelque chose à régler dans ta vie. Il y a quelque chose à régler. » De la même manière, nous, souvent, quand on est là devant la muraille, oui, on demande à Dieu. Mais il y a d'autres petites affaires dans notre vie où on oublie de demander à Dieu parce qu'on se croit capable, parce qu'on croit être fort, parce qu'on se dit finalement je vais y arriver, finalement c'est hey, après ce qu'on a vu, après ce qu'on a vécu, après tous les triomphes et la gloire de Dieu qui s'est manifestée, ça c'est une petite affaire, c'est évident qu'on va être vainqueur. C'était tellement évident qu'ils ont été dans la défaite. Et après, quel découragement de dire j'ai même pas été capable de prendre et de gagner telle et telle victoire. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont déjà vécu ce genre de découragement en disant j'étais sûr que ça marcherait, j'étais sûr que je m'en sortirais, j'étais sûr que là j'allais résister à ça. Dieu m'a délivré de telle ou telle affaire. Certains diront Dieu m'a délivré de la drogue, m'a délivré de toutes sortes d'affaires. Alors là, on m'a invité quelque part, il y avait juste un petit danger, mais c'était rien ça. Et après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que Dieu m'a délivré, puis on se méfie pas et puis on y va. Puis après, quelle déception quand on dit j'ai même pas été capable de dire non, même pas été capable de résister. Et là, je me retrouve dans une défaite. Qu'on puisse être conscient qu'on n'est pas capable de grand chose finalement et qu'on a besoin de Dieu constamment. Que celui qui se croit fort prenne garde de ne pas tomber. Parce qu'il y a bien des pièges qu'on ne voit pas, il y a bien des affaires. Josué, c'est vrai qu'humainement parlant, 2 ou 3 000 hommes suffisaient pour gagner cette victoire. Mais il y avait un problème spirituel. Il y avait un problème là de mensonge. Il y avait un problème caché. Ce problème caché, il n'y a que Dieu qui pouvait le révéler. Et c'est ce qu'il fera après. Je vous rassure, l'histoire finit bien. Après, ils vont régler le problème. Et une fois que le problème va être réglé, ils vont la prendre, la ville d'Aï. Et ils vont être vainqueurs. Gloire à Dieu, ils ne vont pas rester sur cette défaite. Mais pour remporter cette victoire sur cette ville d'Aï, il a fallu qu'ils règlent le problème. Mais la même chose dans notre vie, Seigneur, enseigne-moi. Comme pouvait dire David, montre-moi si je ne suis pas sur la mauvaise voie. Montre-moi s'il y a quelque chose là en moi qui n'est pas correct. Montre-moi si peut-être dans certaines affaires je suis trop léger. S'il y a des choses que je prends à la légère. S'il y a des choses que je ne prends pas avec assez de sérieux. Seigneur, je veux ôter mes souliers parce que le lieu sur lequel je suis est un lieu saint. Et c'est avec beaucoup de respect que je veux venir dans ta présence. Et de dire, Seigneur, parle-moi. Apprends-nous à ne pas considérer des grandes et des petites affaires. Mais que dans tous les domaines de notre vie, tu sois le roi, tu sois le chef, sois toi qui parles à nos cœurs. À prier quelques instants. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que c'est toi qui parles à nos cœurs. Seigneur, nous voulons là, en toute humilité, pas comme Belshazzar, mais en toute humilité, dire Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin encore. Pardonne-nous les fois où nous étions tellement sûrs de nous que nous sommes allés au-devant de difficultés parce que nous croyons que ça allait être facile. Mais Seigneur, il y a besoin de toi tous les jours de notre vie. Voulons, Seigneur, te demander à chaque instant, à chaque moment, de venir parler à nos cœurs, de venir te révéler à nos cœurs, de venir, s'il le faut, nous montrer ce qui n'est pas à sa place, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon. Seigneur, viens nous faire grandir dans ta présence. Viens, Seigneur, nous donner plus de profondeur en toi. Voulons pas être légers devant toi, superficiels. Voulons pas être hypocrites, mais être là de tout notre cœur, dans cette attitude qui te revient, de louange, d'adoration, de service, d'humilité. Parce que nous croyons que les victoires, oui, elles sont pour nous. Tu nous appelles pas à la défaite. Tu ne nous appelles pas à fuir devant notre adversaire, à fuir devant notre ennemi, mais au contraire à remporter des victoires. C'est le diable qui fuira, parce que tu es avec nous. Seigneur, c'est toi notre force. Nous ne voulons pas la trouver en nous, être trop sûrs de nous, mais dire ce matin encore, sois ma force, sois mon soutien, sois mon guide, sois celui qui parle à mon cœur. Et s'il y a des choses vraies, s'il y a des choses dures peut-être que tu dois nous dire, Seigneur, nous voulons avec humilité dire parle, enseigne-nous, parce que nous savons que le résultat, c'est la victoire. Le résultat, c'est le triomphe. Parle à nos cœurs encore. Merci pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui parle en profondeur dans les cœurs. Amen. Alléluia. On va rester dans la prière quelques instants, si vous le permettez. Pas que cette parole soit juste une parole, mais que vraiment l'Esprit de Dieu puisse agir dans nos cœurs. J'invite les musiciens à venir. Alléluia.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.